Vous écoutez RTL.
RTL 7h41, Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin Madame la Ministre des Armées.
Florence Parly, merci de réserver à RTL votre première interview depuis votre prise de fonction, à quelques heures du défilé sur les Champs-Élysées. Il est utile de rappeler d'emblée que vous avez déjà été membre d'un gouvernement, c'était en 2000, à Bercy, en charge du budget, parce qu'on va beaucoup parler d'argent ce matin, le chef d'état-major des armées qui menace de démissionner à cause des coupes budgétaires, le président, chef des armées qui le recadre assez sèchement hier soir, est-ce que c'est une crise ?
Alors hier soir, le président de la République est venu s'adresser aux armées en cette veille de 14 juillet, et comme chacun le sait, le président de la République est le chef des armées. Le président de la République a donc fixé le cap. Et il a notamment réaffirmé quelque chose qui était très attendu par l'ensemble de la communauté militaire et de défense, c'est son engagement de porter l'effort de défense à 2% du PIB en 2025.
On va en parler, mais ce qui a frappé, parce qu'on l'a entendu encore dans le journal de 7h30, au-delà du fond, c'est le ton qu'il a employé et qui visait très clairement le chef d'état-major des armées, le plus haut gradé de l'armée française.
Le président de la République a fait une chose extrêmement claire, nette. Il a rappelé à chacun la nécessaire discipline collective. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'il a délivré un certain nombre de messages, messages à l'endroit des familles, messages à l'endroit de la communauté militaire, messages à l'endroit du monde politique aussi, sur la clarté du cap qui est le sien en matière de défense et en matière militaire.
Nécessaire discipline collective, c'est-à-dire que le chef d'état-major a manqué de discipline.
Écoutez, aujourd'hui, c'est la fête nationale. Le 14 juillet, c'est un moment qui est un moment très fort pour tous les Français. Les Français sont extrêmement fiers de leur armée. C'est une armée qui les protège, qui les défend. Nous avons des militaires qui combattent avec courage sur de très nombreux fronts en ce moment à l'extérieur. C'est un temps très fort pour notre nation.
C'est un temps très fort, mais depuis quelques jours et à l'approche de ce 14 juillet, le gouvernement, votre collègue du budget Gérald Darmanin, a donné des signaux qui justement ne plaisent pas aux militaires. Donc on peut comprendre, sans prendre parti, on peut comprendre la mauvaise humeur du général de Villiers. On rappelle peut-être à nos auditeurs, avant-hier, à huis clos, devant des députés, il a dit en des termes assez fleuris, je ne vais pas me laisser faire sur ces questions budgétaires.
Mais personne n'est là pour se laisser faire. Moi, je ne suis pas là pour me plaindre non plus. Je suis là pour agir et je suis là pour avancer. Donc, ma priorité, ça a d'abord été de gérer l'année 2017, dans laquelle nous sommes d'ores et déjà bien engagés, et de gérer le très court terme. On le sait, les conditions sont très difficiles. L'audit de la Cour des comptes a révélé de très grosses insuffisances et des dépenses non financées à hauteur de plus de 4 milliards. Donc 4 milliards, c'est pas quelque chose de facile à retrouver comme marge de manœuvre dans un budget alors que celui-ci commence à être exécuté. Donc tout le monde doit contribuer à cet effort de solidarité. C'est un effort collectif et c'est ce que le ministère des Armées va faire.
Mais admettez qu'il y a une contradiction parce qu'on entend d'un côté on va atteindre les 2% de dépenses militaires par rapport à la richesse nationale en 2025. Ça veut dire en gros qu'il faut 2 milliards de plus chaque année et puis on commence par retirer 850 millions d'euros aux armées.
Si vous voulez bien me laisser poursuivre, donc il y a le très court terme, c'est 2017. 2017, c'est l'effort de solidarité collective.
Donc là, près d'un milliard d'euros d'efforts.
Il y a donc 850 millions d'annulations de crédit. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces annulations de crédit aient un impact le plus limité possible pour nos forces, car elles ne doivent pas supporter les errements du passé. Et donc, je m'assurerai que le reste du budget 2017 soit exécuté correctement.
Mais pardon, donc pour parler clairement, les 850 millions d'euros évoqués par Gérald Darmanin, ça veut dire que l'armée donc, doit faire une croix dessus, c'est acté.
Les 850 millions d'euros qui seront annulés seront pour une très large partie redéployés pour financer le surcoût des opérations extérieures.
Ça va se traduire comment, pardon, mais en termes d'efforts, vous disiez chacun fait des efforts. Sur le terrain, très concrètement, 850 millions d'euros en moins d'ici la fin de l'année, ça veut dire quoi pour les militaires ?
Ça veut dire que des crédits, notamment des crédits d'équipement, seront redéployés pour qu'il n'y ait aucun impact sur les conditions d'intervention de nos forces sur les opérations extérieures et sur le territoire national. Mais le point qui est clé pour moi, c'est la préparation du budget 2018. Parce que, d'ailleurs, je me suis totalement investie, j'ai annulé un certain nombre de déplacements en province et à la rencontre des armées pour pouvoir me concentrer complètement sur la négociation de ce budget. Et il m'importait beaucoup de plaider la cause du budget 2018 et de convaincre. Alors, on sait qu'en 2018, l'équation budgétaire est elle-même très contrainte. Donc, moi, je suis satisfaite des décisions qui ont été annoncées par le président de la République hier, parce que c'est un budget 2018 qui met en œuvre tous les engagements qui ont été pris au cours des mois précédents, après les attentats qui ont marqué la France. Et donc, nous aurons en 2018 l'ensemble des moyens nécessaires à la satisfaction des engagements qui ont été pris dans le passé.
Ça veut dire 1,5 milliard d'euros de plus consacré à la défense, hein, c'est ça ?
Ça veut dire 1,5 milliard de plus consacré à la défense.
Si vous le permettez,
pardonnez-moi, mais le deuxième point, c'est que c'est un budget qui répond aux besoins de nos forces. Et enfin, c'est un budget qui permet de garder ce cap par rapport à l'orientation qui a été fixée pour 2025 d'un budget de la défense qui représentera à cette date 2% du produit intérieur brut.
Au passage d'ailleurs, on remarque que 2025, c'est au-delà du mandat d'Emmanuel Macron. Ça a quel sens de s'engager au-delà d'un mandat ?
Ça a beaucoup de sens parce que dès l'année prochaine, nous allons nous engager dans la préparation d'une loi de programmation militaire et que cette loi de programmation militaire, ça ne sera pas la première, c'est celle qui fait référence au fil des ans et elle couvrira la période 2019-2025 précisément.
Si vous permettez un dernier mot quand même sur le général de Villiers, parce que passez-moi l'expression, mais il en remet une couche ce matin dans le Figaro. Alors je sais que c'était prévu sans doute l'apparition de sa tribune avant le recadrage du chef de l'État hier soir, mais il dit voilà, 30 000 soldats opérationnels de jour comme de nuit depuis plus de deux ans, ça n'est pas tenable. Est-ce que le général de Villiers, puisque c'est de lui qu'il s'agit, peut rester en place encore un an comme c'est prévu dans ces conditions-là ?
Il ne m'appartient pas de faire des commentaires, il m'appartient de défendre les moyens dont disposent nos forces pour intervenir conformément aux demandes qui sont faites par le président de la République, chef des armées, et de faire en sorte que nos soldats aient tous les moyens de protection nécessaires.
Le général de Villiers a toute votre confiance.
Et ce qui m'importe, c'est que nous avons dans ce budget 2018 200 millions d'euros qui vont permettre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, d'améliorer, de moderniser le petit équipement matériel et les éléments de protection de nos soldats qui sont vitaux pour assurer leur intégrité physique.
Le général de Villiers a toute votre confiance.
Parce que derrière les chiffres, ce sont des vies qui sont en cause.
C'est important cette question. Est-ce que le général de Villiers a toute la confiance de la ministre des Armées et du chef de l'État ?
Le général de Villiers sera ce matin au défilé du 14 juillet.
Et ensuite, est-ce que dans l'année qui vient, puisqu'il a été prolongé jusqu'en juillet 2018, est-ce qu'il sera toujours le chef d'état-major des armées dans les mois qui viennent ?
Les décisions sont prises par le président de la République, le Premier ministre, et je vous dis que le général de Villiers sera présent de ce matin au défilé du 14 juillet, car le 14 juillet, c'est la fête de tous les Français. Et je pense qu'il y a d'autres sujets plus intéressants à évoquer ce matin.
Alors, un sujet important qui a été évoqué hier soir par le président de la République à la veille de ce 14 juillet, et donc des commémorations de l'attentat de Nice. Emmanuel Macron a dit hier soir qu'il allait revoir en profondeur l'organisation de l'opération Sentinelle, le déploiement des soldats dans nos rues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour quelles raisons ?
Nous avons plus de 7000 soldats qui sont engagés sur l'opération Sentinelle. C'est une opération qui se fait en combinaison avec les forces de police et de gendarmerie. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir avoir une flexibilité maximale dans le déploiement de ces forces pour être les plus efficaces possible. Nous sommes en ce moment en période estivale, les flux de population bougent, se déplacent sur le territoire et nous devons être plus adaptable, de sorte que nos soldats soient déployés là où nous avons réellement nous en avons réellement le plus besoin.
Ça veut dire moins de soldats sur le terrain, concrètement ?
Ça veut dire des soldats mieux déployés aux endroits les plus stratégiques.
Quand le président dit on va revoir la doctrine de l'opération Sentinelle, ça peut se traduire par le remplacement, par un autre type de force. On dit souvent que les militaires ne comprennent pas trop pourquoi, eux qui sont entraînés à faire la guerre, on les met sur le terrain en temps de paix.
On les met sur le terrain en temps de paix parce que nous avons connu des événements d'une gravité exceptionnelle, avec de très très nombreuses victimes, que la menace est très élevée et que donc il est indispensable que nous puissions faire face à toutes les formes d'attaques possibles. Alors il y a une forme de terrorisme, je dirais, amateur qui peut provoquer beaucoup de dégâts. Il y a aussi des formes de terrorisme plus militaires, si je puis dire. Et c'est donc important que l'opération Sentinelle puisse compléter la gamme d'interventions qui sont celles des forces de l'ordre en général.
Mais vous êtes allé à leur rencontre, hein, ces militaires. Souvent, ils disent, nous, on ne comprend pas très bien, ça pèse d'ailleurs sur le moral des troupes, on ne comprend pas très bien, on n'est pas forcément très utile là, dans cette opération Sentinelle.
Ce n'est pas ce que j'ai entendu, parce que, au contraire, ce que j'ai entendu de la part des unités que j'ai été rencontrées, c'est le fait qu'il y a une très grande complémentarité dans les missions qu'ils assument lorsqu'ils sont à l'extérieur et les missions qu'ils assument sur le territoire national. Bien sûr, ce sont des missions de nature différente, mais l'alternance de ces missions est aussi une forme de richesse et de diversité dans l'exercice de ce métier difficile qui est celui de militaire.
D'un mot, quelle sera précisément la contribution de l'armée dans le futur service national universel d'un mois que le président veut mettre en place ?
Alors, c'est un sujet dont nous allons débattre tout bientôt, puisque nous allons lancer une réflexion sur la manière de structurer ce service national universel. Le président de la République a annoncé hier qu'il souhaitait réunir une commission pour y réfléchir. Ce qui est certain, c'est que cette commission devra réfléchir en intégrant une dimension, bien sûr, de défense, mais aussi en y intégrant d'autres aspects, puisque c'est une politique très interministérielle qui concerne de très nombreux domaines de l'action publique de l'État.
Interministérielle, ça veut dire que les 3 milliards d'euros que va coûter ce service, ce ne sera pas que dans le budget de la défense. Hein.
Vous me prenez vraiment pour quelqu'un d'obsédé par les questions budgétaires. Ce n'était pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est que c'est une politique qui va concerner de très nombreux opérateurs de l'État. Je pense en particulier au ministère du Travail et de l'Emploi, puisque ce dont il s'agit, ce sont des jeunes. Ça va également concerner très certainement le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Bref, de très nombreux domaines. Et donc, ce qui est important, c'est que nous puissions fédérer les différents intervenants pour que nous mettions en place à la fois un service qui améliore le lien armée-nation, le renforce, et je crois que c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps et qui, en même temps, permette aux jeunes de bien s'insérer, de mieux s'insérer.
L'idée,
dans
c'est
la
de le mettre en place d'ici quoi, 2-3 ans.
On le fera de manière très progressive et encore une fois, je pense que on sera amené à faire un certain nombre d'expérimentations. Enfin, tout ça, c'est la commission qui le dira lorsqu'elle fera ses propositions.
Emmanuel Macron et Angela Merkel ont fait une annonce hier à Paris, la création prochaine d'un avion de chasse franco-allemand. Enfin, je dis prochaine, justement, à quel horizon c'est quoi ? C'est dans 10 ans, dans 20 ans ?
Alors, il s'agit de remplacer les avions de combat actuels.
Le Rafale, par exemple.
On ne va pas les remplacer tout de suite. Il s'agit de les remplacer à terme. Et donc, s'agissant de très grands programmes d'armement, il est indispensable d'anticiper. Ce sont des programmes qui se déroulent sur, en général, une quarantaine d'années. Le Rafale a été conçu au début des années 80, 1986, si ma mémoire est bonne. Donc, il s'agit de s'y prendre maintenant en anticipant. Et donc, l'anticipation...
Et en impliquant tous les acteurs européens, Dassault, Airbus...
L'anticipation, ça consiste à dire, au moment où ces avions devront être remplacés, ne faut-il pas réfléchir à un projet commun qui réunira la France et l'Allemagne pour penser un futur avion de combat européen. Voilà ce qui a été décidé, c'est tout à fait majeur en effet, mais ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec nos amis allemands en matière de programme militaire, bien sûr. Mais celui-ci est particulièrement important.
Cet entretien touche à sa fin, Florence Parly. Je termine par une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous avez appris depuis un petit mois maintenant que vous êtes à la tête de ce ministère ?
J'y ai appris une chose très forte, c'est l'engagement des hommes et des femmes de ce ministère. Lorsque je suis arrivée, on m'a dit, ici, on engage sa vie, on est prêt au combat jusqu'au sacrifice ultime. Ce sont des mots qui peuvent paraître abstraits, et depuis les 3 semaines que j'ai été nommée au ministère des Armées, je comprends quotidiennement combien c'est quelque chose de concret qui anime les hommes et les femmes du ministère.
Merci beaucoup Florence Parly. Vous allez donc rejoindre maintenant Emmanuel Macron et Donald Trump donc, sur la place de la Concorde pour ce défilé du 14 juillet. Merci d'avoir accordé à RTL cette toute première interview depuis votre nomination au ministère des Armées.